Chapitre 39. Eulenspiegel étant alors à Bois, le duc en Brabant, messieurs de la ville le voulurent nommer leur fou, mais il refusa cette dignité, disant « Pèlerin, pèlerine, n'en ne peut folier de ses jours, seulement par auberge et chemin. » En ce même temps, Philippe, qui était roi d'Angleterre, vint visiter ses futurs pays d'héritage, Flandre, Brabant, Hainaut, Hollande et Zélande. Il était alors en sa 29e année. En ses yeux grisâtres habitait aigre mélancolie, dissimulation farouche et cruelle résolution. Froid était son visage, roide sa tête, couverte de fauves cheveux roides aussi, son torse maigre et ses jambes grêles. Lent était son parler, pâteux, comme s'il eût eu de la laine dans la bouche. Il visita, au milieu des tournois, joutes et fêtes, le joyeux duché de Brabant, le riche comté de Flandre et ses autres seigneuries. Partout, il jura de garder les privilèges, mais lorsqu'à Bruxelles il fit serment sur l'Évangile d'observer la bulle d'or de Brabant, sa main se contracta si fort qu'il dut la retirer du Saint-Cyvre. Il se rendit à Anvers, où l'on fit pour le recevoir 23 algues de triomphe. La ville dépensa 287 000 florins pour payer ses arcs et aussi pour le costume de 1879 marchands, tous vêtus de velours cramoisi, et pour la riche livrée de 416 laquais et les brillants accoutrements de soie de 4000 bourgeois, tous vêtus d'eux-mêmes. Maintes fêtes furent données par les rhétoriciens de toutes les villes du Pays-Bas où peu s'en faut. Là furent vus avec leurs fous et folles le prince d'amour de Tournai monté sur une truie qui avait nom Astarté, le roi des Sceaux de Lille qui menait un cheval par la queue et marchait derrière, le prince de Plaisance de Valenciennes qui se plaisait à compter les pets de son âne, l'abbé de Liesse d'Arras qui buvait du vin de Bruxelles dans un flacon en forme de bréviaire, et c'était joyeuse lecture. L'abbé des Pots pourvus, date, qui était pourvu que d'un linge troué de bottines avachies, mais il avait un saucisson dont il se pourvoyait bien la bedaine. Le prévôt des Étourdis, jeune garçon monté sur une chèvre peureuse et qui trottant dans la foule recevait à cause d'elle main Orion. L'abbé du Plat d'Argent, du Quesnois, qui, monté sur son cheval, faisait mine de s'asseoir dans un plat, disant qu'il n'est si grosse bête que le feu ne puisse cuire. Et ils firent toutes sortes d'innocentes folies, mais le roi demeura triste et sévère. Le soir même, le margrave d'Anvers, les bourgmestres, capitaines et doyens, s'assemblèrent afin de trouver quelque jeu qui pût faire rire le roi Philippe. Le margrave dit « N'avez-vous point ouï parler d'un certain Pierkin Jacobsen, fou de ville de Bois-le-Duc et bien renommé pour ses joyeusetés ?»« Oui, » firent-ils. « Eh bien, » dit le margrave, « mandons l'océan et qu'il fasse quelque agile tour puisque notre fou a du plomb dans les bottines. »« Mandons l'océan, » firent-ils. Quand le messager d'Anvers vint à Bois-le-Duc, on lui dit que le fou Pierkin avait fait sa crevaille à fort de rire, mais qu'il était en la ville un autre fou de passage, nommé Eulenspiegel. Le messager le chercha en une taverne où il mangeait une fricassée de moule et faisait à une fillette une côte avec les coquilles. Eulenspiegel fut ravi, sachant que c'était pour lui que venait d'Anvers le courrier de la commune, monté sur un beau cheval du Vernambach en tenant un autre en bride. Sans mettre pied à terre, le courrier lui demanda s'il savait où trouver un nouveau tour pour faire rire le roi Philippe. « Oh, j'en ai une mine sous mes cheveux !» répondit Eulenspiegel. Ils s'en furent. Les deux chevaux courant à bride avalée portèrent à Anvers Eulenspiegel et le courrier. Eulenspiegel comparut devant le margrave, les deux bourgmestres et ceux de la commune. « Que comptes-tu faire ?» lui demanda le margrave. « Voler en l'air !» répondit Eulenspiegel. « Ah, comment t'y prendras-tu ? » demanda le margrave. « Savez-vous, lui demanda Eulenspiegel, ce qui vaut moins qu'une vessie qui crève ?»«
Je l'ignore, » dit le margrave.
« Ben, c'est un secret qu'on évente, » répondit Eulenspiegel.
Cependant, les héros des jeux, montés sur leurs beaux chevaux harnachés de velours cramoisi, chevauchèrent par toutes les grandes rues, places et carrefours de la ville, sonnant du clairon et battant le tambour. Ils annoncèrent ainsi aux signorques et aux signorquines que Eulenspiegel, fou de dame, allait voler en l'air sur le quai, étant présent sur une estrade le roi Philippe et sa haute, illustre et notable compagnie. Vis-à-vis l'estrade était une maison bâtie à l'italienne, le long du toit de laquelle courait une gouttière. Une fenêtre de grenier s'ouvrait sur la gouttière. Eulenspiegel, monté sur un âne, parcourut la ville ce jour-là. Un valet courait à côté de lui. Eulenspiegel avait mis la belle robe de soie cramoisie que lui avaient donnée messieurs de la commune. Son couvre-chef était un capuchon cramoisi pareillement, où se voyaient deux oreilles d'âne avec un grelot au bout de chacune. Il portait un collier de médailles de cuivre où était repoussé en relief l'écu d'envers. Au manche de la robe tintait un coude pointu, un grelot doré. Il avait les souliers à patins dorés et un grelot au bout de chaque patin. Son âne était caparaçonné de soie cramoisie et portait sur chaque cuisse l'écu d'envers brodé en or fin. Le valet agitait d'une main une tête d'âne et de l'autre un rameau, au bout duquel tintinabulait une clarine de vache forestière. Eulenspiegel, laissant dans la rue son valet et son âne, monta dans la gouttière. Là, agitant ses grelots, il ouvrit les bras tout grands comme s'il allait voler. Puis, se penchant vers le roi Philippe, il dit « Je croyais qu'il y avait de fous à Anvers que moi, mais je vois que la ville en est pleine. Si vous m'aviez dit que vous alliez voler, je ne l'aurais pas cru, mais qu'un fou vienne vous dire qu'il le fera, vous le croyez. Mais comment voulez-vous que je vole, puisque je n'ai pas d'ailes ?» Les uns riaient, les autres juraient, mais tous disaient « Ce fou dit pourtant la vérité. » Mais le roi Philippe demeura roide comme un roi de pierre. Et ceux de la commune s'entredirent tout bas. Pas besoin était de faire de si grands festoiements pour ainsi une aigre trogne. Et ils donnèrent 3 florins au Eulenspiegel qui s'en fut, leur ayant de force rendu la robe de soie cramoisie. Qu'est-ce que 3 florins dans la poche d'un jeune gars, sinon un boulet de neige devant le feu, une bouteille pleine vis-à-vis de vous, buveur au large gosier? 3 florins. Les feuilles tombent des arbres et y repoussent, mais les florins sortent des poches et n'y rentrent jamais. Les papillons s'envolent avec l'été, et les florins aussi, quoiqu'ils pèsent 2 estrelins et 9 faces. Ils se disent, ah, Eulenspiegel, regardez bien ces 3 florins. Quelle fière mine, murmurait-il, a sur la verre l'empereur Charles cuirassé, encasqué, tenant un glaive d'une main et de l'autre le globe de ce pauvre monde. Il est, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, roi d'Espagne, etc. Et il est bien gracieux pour nos pays, l'empereur cuirassé. Et voici, sur le revers, un écu, où se voient graver les armes de duc, comte, etc., de ses différentes possessions, avec cette belle légende « Dami virtutem contra hostes tuos »« Baille-moi vaillance contre tes ennemis ». Oh, il fut vaillant, en effet, contre les réformés qui ont dû bien faire confisquer, et il en hérite. Ah, si j'étais l'empereur Charles, je ferais faire des florins pour tout le monde, et chacun étant riche, plus personne ne travaillerait. Mais Eulenspiegel avait eu beau regarder la belle monnaie. Elle s'en était allée vers le pays de ruines aux cliquetis des pintes et aux sonneries des bouteilles. Tandis que sur la gouttière il s'était montré vêtu de soie cramoisie, Eulenspiegel n'avait pas vu Nell qui, dans la foule, le regardait souriante. Elle demeurait en ce moment à Borgerhout, près d'Anvers, et pensa que si quelque fou devait voler devant le roi Philippe, ce ne pouvait être que son ami Eulenspiegel. Comme ils cheminèrent rêvassant sur la route, il n'entendit point un bruit de pas pressé derrière lui, mais sentit bien deux mains qui s'appliquaient sur ses yeux platement. Flairant en elle, « Tu es là ?» dit-il. « Oui, dit-elle, je cours derrière toi depuis que tu es sorti de la ville. Viens avec moi. » « Mais, dit-il, où est Kathleen ?»« Oh, tu ne sais pas, lui dit-elle, qu'elle fut torturée comme sorcière, injustement, puis bannie de dames pour 3 ans, et qu'on lui brûla les pieds et des étoupes sur la tête. Je te dis ceci afin que tu n'aies pas peur d'elle, car elle est affolée à cause de la grande souffrance. Souvent, elle passe d'entières heures regardant ses pieds et disant « Hanske, mon diable doux, vois ce qu'ils ont fait à ta mère. Et ses pauvres pieds sont comme deux plaies. » Puis elle pleure, disant, oh, « Les autres femmes ont un mari ou un amoureux. Moi, je vis en ce monde comme une veuve. » Alors je lui dis alors que son ami Hanske la prendra en haine si elle parle de lui devant d'autres que moi. Et alors elle m'obéit comme une enfant, sauf quand elle voit une vache ou un bœuf cause de sa torture. Alors elle s'enfuit, toute courante sans que rien ne l'arrête, barrière, ruisseau ni rigole, jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue à l'angle d'un chemin ou contre le mur d'une ferme où je vais la ramasser et lui panser les pieds qui alors saignent. Je crois qu'en brûlant le paquet d'étoupes, on lui a aussi brûlé le cerveau dans la tête. » Et tous deux furent maris, songeant à Kathleen. Ils vinrent près d'elle et la virent assise sur un banc au soleil, contre le mur de sa maison. Eulenspiegel lui dit, « Me reconnais-tu ?»« 4 fois 3, dit-elle, c'est le nombre sacré et le 13e, c'est Tereb. » Qui es-tu, enfant de ce méchant monde ? Mais je suis, répondit Eulenspiegel, fils de Sectin et de Claes. Elle hocha la tête et le reconnut. Puis l'appelant du doigt et se penchant à son oreille, si tu vois celui dont les baisers sont comme neige, dis-lui qu'il revienne, Eulenspiegel. Puis montrant ses cheveux brûlés, « J'ai mal, dit-elle, ils m'ont pris mon esprit, mais quand il viendra, il me remplira la tête qui est toute vide maintenant. Entends-tu, elle sonne comme une cloche. C'est mon âme qui frappe à la porte pour partir parce qu'il brûle. Si Hanske vient et ne veut pas me remplir la tête, je lui dirai d'y faire un trou avec un couteau. Oh, l'homme qui est là, frappant toujours pour sortir, me navre cruellement, je mourrai, oui. » Et je ne dors plus jamais, et je l'attends toujours. Il faut qu'il me remplisse la tête, oui. » Et s'affaissant, elle gémit. Et les paysans qui revenaient des champs pour aller dîner, tandis que la cloche les y appelait de l'église, passaient devant Kathleen en disant « Ah tiens, voici la folle !» Et il se signa. Et Nell et Eulenspiegel pleuraient, et Eulenspiegel dut continuer son pèlerinage. En ce temps-là, pèlerinant, il entra au service d'un certain Joss, surnommé le Gweigbacher, le boulanger fâché, à cause de son aigle trogne. Le Gvaibaker lui donna pour nourriture 3 pains rassis par semaine et pour logis une soupente sous le toit où il pleuvait et ventait à merveille. Se voyant si maltraité, Eulenspiegel lui joua différents tours et entre autres celui-ci. Quand on cuit de grand matin, il faut bluter la farine la nuit. Une nuit donc que la lune brillait, Eulenspiegel demanda une chandelle pour y voir et reçut de son maître cette réponse « Blute la farine au clair de la lune !» Eulenspiegel, obéissant, bluta la farine par terre là où brillait la lune. Au matin, le Gvaibaker, allant voir quelle besogne avait faite Eulenspiegel, le trouva blutant encore et lui dit « La farine ne coûte-t-elle plus rien qu'on la blute à présent par terre ?»« Ben, j'ai bluté la farine au clair de lune comme vous me l'aviez ordonné, » répondit Eulenspiegel. Le boulanger répondit « En bâté, c'était en un tamis qu'il fallait le faire !» « J'ai cru que la lune était un tamis de nouvelle invention, » répondit Eulenspiegel. « Mais la perte ne sera pas grande, je vais ramasser la farine. »« Il est trop tard, » répondit le Gvaibaker, « préparez la pâte et la faire cuire. » Eulenspiegel repartit. « la pâte du voisin est prête dans le moulin, veux-tu l'aller prendre ?»« Va à la potence, » répondit le Gvaibaker, « et cherche ce qui s'y trouve. » « J'y vais, Baas, » répondit Eulenspiegel. Il courut au champ de potence, y trouva une main de voleur desséchée, l'apporta au Gvaibaker et dit « Voici une main de gloire qui rend invisible tout ce qu'il apporte. Peux-tu dorénavant cacher ton mauvais caractère ?»« Je vais te signaler à la commune. » répondit le Gvaibaker, et tu verras que tu enfreins le droit du Seigneur. Quand ils se trouvèrent à deux devant le bourgmestre, le Gvaibaker, voulant défiler le chapelet des méfaits d'Eulenspiegel, vit qu'il ouvrait les yeux tout grands. Il en devint si colère qu'interrompant sa déposition, il lui dit « Que te faut-il ?» Eulenspiegel répondit tu m'as dit que tu m'accuserais de telle façon que je verrais. Je cherche à voir, et c'est pourquoi je regarde. Sors de mes yeux, s'écria le boulanger. Si j'étais dans tes yeux, répondit Eulenspiegel, je pourrais, lorsque tu les fermes, sortir que par tes narines. Le bourgmestre, voyant que c'était ce jour-là la foire au Billevesée, ne voulait plus les écouter davantage. Eulenspiegel et le Gvaibaker sortirent ensemble. Le Gvaibaker leva son bâton sur lui. Eulenspiegel, l'évitant, lui dit « puisque c'est avec des coups que l'on blute ma farine, prends-en le son, c'est ta colère. J'en garde la fleur, c'est ma gaieté. » Puis lui montrant son faux visage, « Et ceci, ajouta-t-il, c'est la gueule du four, si tu veux cuire. » Eulenspiegel, pèlerinant, se fut fait volontiers voleur de grand chemin, mais il en trouva les pierres trop lourdes au transport. Il marchait au hasard sur la route d'Audenarde, où se trouvait alors une garnison de reiters flamands, chargé de défendre la ville contre les partis français qui ravageaient le pays comme des sauterelles. Les Reiters avaient à leur tête un certain capitaine, frison de naissance, nommé Cornjuin. Eux aussi couraient le plat pays et pillaient le populaire, qui était ainsi comme de coutume mangé des deux côtés. Tout leur était bon, poules, poulets, canards, pigeons, veaux et porcs. Un jour qu'il revenait charger le butin, Cornjuin et ses lieutenants aperçurent au pied d'un arbre Eulenspiegel, dormant et rêvant de fricassés.
Que fais-tu pour vivre? Demanda Cornjuin.
Bon, je meurs de faim, répondit Eulenspiegel.
Quel est ton métier?
Pèleriner pour mes péchés, voir besogner les autres, danser sur la corde, pour traire les visages mignons, sculpter des manches de couteau, pincer du rommel pot et sonner de la trompette.
Si Eulenspiegel parlait si hardiment de trompette, c'est parce qu'il avait appris que la place de veilleur du château de Denard était devenue vacante par suite de la mort d'un vieil homme qui occupait cet emploi.
Quand Jean lui dit « Eh bien, tu seras trompette de la ville. »
Eulenspiegel le suivit et fut placé sur la plus haute tour des remparts, en une logette bien éventée des quatre vents, sauf de celui du midi qui ne soufflait que d'une aile. Il lui fut recommandé de sonner de la trompette, sinon qu'il verrait les ennemis venir, et pour ce, de se tenir la tête libre et d'avoir toujours les yeux clairs. À ses fins, on ne lui donnerait pas trop à manger ni à boire. Le capitaine et ses soudards demeuraient dans la tour et y festoyaient toute la journée aux frais du plat pays. Il fut tué et mangeait là plus d'un chapon dont la graisse était le seul crime. Eulenspiegel, toujours oublié et devant se contenter de son maigre potage, ne se réjouissait point à l'odeur des sauces. Les Français vinrent et enlevèrent beaucoup de bétail. Eulenspiegel ne sonna point de la trompette. Cornjuin monta près de lui et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas sonné ?» Eulenspiegel lui dit « Je ne vous rends point grâce de votre manger. » Le lendemain, le capitaine commanda un grand festin pour lui et ses soudards. Mais Eulenspiegel fut encore oublié. Ils allaient commencer à beaufrer et Eulenspiegel sonna de la trompette. Cornjuin et ses soulards, croyant que c'étaient les Français, laissent là vins et viandes, montent sur leurs chevaux, sortent en hâte de la ville, mais ne trouvent rien dans la campagne qu'un bœuf ruminant au soleil et l'emmène. Pendant ce temps-là, Eulenspiegel s'était empli de vin et de viande. Le capitaine, en rentrant, le vit qui se tenait debout souriant, les jambes flageolantes à la porte de la salle du festin. Il lui dit « C'est faire besogne de traître de sonner l'alarme quand tu le vois près l'ennemi et de ne le sonner point quand tu le vois. »«
Monsieur le capitaine, » répondit Eulenspiegel, « je suis dans ma tour tellement gonflée des quatre vents que je pourrais surnager comme une vessie si je n'avais sonné de la trompette pour me soulager. Faites-moi pendre maintenant ou une autre fois quand vous aurez besoin de peau d'âne pour vos tambours. »
Cornjuin s'en fut sans mot dire.
Cependant, la nouvelle vint à Audenard que le gracieux empereur Charles allait se rendre en cette ville bien noblement accompagné. À cette occasion, les échevins donnèrent à Eulenspiegel une paire de lunettes afin qu'il pût bien voir venir sa sainte majesté. Eulenspiegel devait sonner trois fois de la trompette aussitôt qu'il verrait l'empereur marcher sur Loupegem, qui est à un quart de lieue de la Borgporte. Ceux de la ville auraient ainsi le temps de sonner les cloches, de préparer les boîtes d'artifice, de mettre les viandes et les broches au barrique. Un jour, vers midi, le vent venait de Brabant et le ciel était clair. Eulenspiegel vit, sur la route qui mène à Loupegem, une grande troupe de cavaliers montés sur chevaux piaffants, les plumes de leurs toques volant au vent. D'aucuns portaient des bannières. Celui qui chevauchait en tête fièrement portait un bonnet de drap d'or à grandes plumes. Il était vêtu de velours brun, brodé de brocatelle. Brunspiegel, mettant ses lunettes, vit que c'était l'empereur Charles Quint qui venait permettre à ceux de Denerde de lui servir leur meilleur vin et leur meilleure viande. Toute cette troupe allait au petit pas, humant l'air frais qui met en appétit. Mais Brunspiegel songea qu'il faisait de coutume grasse chair et pourrait bien jeûner un jour sans trépasser. Donc il les regarda venir et ne sonna point de la trompette. Ils avancent, riant et devisant, tandis que sa sainte majesté regardait en son estomac pour voir s'il y avait assez de place pour le dîner de ceux de Nemarde. Elle parut surprise et mécontente que nulle cloche ne sonna pour annoncer sa venue. Sur ce, un paysan entra tout en courant, annoncé qu'il avait vu chevaucher aux environs un parti français marchant sur la ville pour y manger et piller tout. À ce propos, le portier ferma la porte et envoya un valet de la commune avertir les autres portiers de la ville. Mais les Reiters se festoyaient sans rien savoir. Sa Majesté avançait toujours, fâché de n'entendre point sonnant, tonnant et pétaradant les cloches, canons et arquebusades. Prêtant en vain l'oreille, elle n'ouïe que le carillon qui sonnait la demi-heure. Elle arriva devant la porte, la trouva fermée et y frappa de son poing pour la faire ouvrir. Et les seigneurs, de sa suite, fâchés comme mêle, grommelaient des gros paroles. Le portier, qui était au haut des remparts, leur cria que s'ils ne cessaient ce vacarme, il les arroserait de mitraille afin de rafraîchir leur impatience. Mais sa majesté, courroucée, « Aveugle pourceau, dit-elle, ne reconnus-tu point ton empereur ?» Le portier répondit « Que les moins pourceaux ne sont pas toujours les plus dorés. » Et qu'ils savaient au demeurant que les Français étaient bons grosseurs de leur nature, vu que l'empereur Charles, guerroyant présentement en Italie, ne pouvait pas se trouver aux portes de Denerde. Là-dessus, Charles et les seigneurs crièrent davantage, disant « Si tu n'ouvres pas, nous te faisons rôtir au bout d'une lance, et tu mangeras tes clés préalablement. » Au bruit qu'il faisait, un vieux soudard sortit de l'halle aux engins d'artillerie et montrant le nez au-dessus du mur. « Portier, dit-il, tu t'abuses, mais c'est là notre empereur. Oh, je le reconnais bien, quoiqu'il ait vieilli depuis qu'il emmena d'ici au château de l'Alain Maria van der Geest. » Oh, le portier tomba comme raide mort de peur. Le soudard lui prit les clés et alla ouvrir la porte. L'empereur demanda pourquoi on l'avait fait si longtemps attendre. Le soudard lui ayant dit, sa majesté lui ordonna de refermer la porte, de lui amener les Reiters de Corjuin, auxquels il commanda de marcher devant lui en jouant de leur tambourin et jouant de leur fifre. Bientôt, une à une, les cloches s'éveillèrent pour sonner à toute volée. Ainsi précédée, sa majesté vint avec un impérial fracas au grand marche. Les bourgmestres et les échevins y étaient assemblés. L'échevin Jean Guidelaer vint au bruit. Il rentra dans la salle de délibération en disant « Kaiser Karel Isaldir, l'empereur Charles est ici !» Bien effrayé en apprenant cette nouvelle, les bourgmestres, échevins et conseillers sortirent de la maison commune pour aller encore saluer l'empereur, tandis que leurs valets couraient par toute la ville pour faire préparer les boîtes d'artifice, mettre au feu les volailles et planter les broches dans les tonneaux. Hommes, femmes et enfants couraient partout en criant « Kaiser Karel is auf der Grotmarkt, l'empereur Charles est sur le grand marché !» Bientôt la foule fut grande sur la place. L'empereur, fort en colère, demanda aux deux bourgmestres s'ils ne méritaient point d'être pendus pour avoir ainsi manqué de respect à leur souverain. Les bourgmestres répondirent qu'ils le méritaient, en effet, mais que Lunspiegel, trompette de la tour, le méritait davantage, attendu que sur le bruit de la venue de Sa Majesté, on l'avait placé là, muni d'une bonne paire de besicles, avec ordre exprès de sonner de la trompette 3 fois, aussitôt qu'il verrait venir le cortège impérial, mais il n'en avait rien fait. L'empereur, toujours fâché, demanda qu'on fît venir Eulenspiegel. Pourquoi, lui dit-il, ayant des besicles si clairs, n'as-tu point sonné de la trompette à ma venue? Se disant, il se passa la main sur les yeux à cause du soleil et regarda Eulenspiegel. Celui-ci passa aussi la main sur ses yeux et répondit que depuis qu'il avait vu Sa Sainte Majesté regarder entre ses doigts, il n'avait plus voulu se servir de besicles. L'empereur lui dit qu'il allait être pendu. Le portier de la ville dit que c'était bien fait. Et les bourgmestres furent si terrifiés de cette sentence qu'ils ne répondirent mot ni pour l'approuver ni pour y contredire. Le bourreau et ses apechers furent mandés. Ils vinrent, porteurs d'une échelle et d'une corde neuve, saisirent au collet Eulenspiegel, qui marcha devant les 100 Reiters de Cornjuin, en se tenant quoi et disant ses prières. Mais eux se gaussaient de lui amèrement. Le peuple qui suivait disait: bon, c'est une bien grande cruauté de mettre ainsi à mort un pauvre jeune garçon pour une si légère faute. Et les tisserands étaient là, en grand nombre et en armes, et disaient: ah, nous ne laisserons point pendre Eulenspiegel, cela est contraire à la loi de Donnerherd. Cependant, on vint au champ de potence. Eulenspiegel fut hissé sur l'échelle, et le bourreau lui mit la corde. Les tisserands affluaient autour de la potence. Le prévôt était là, à cheval, appuyant sur l'épaule de sa monture la verge de justice, avec laquelle il devait, sur l'ordre de l'empereur, donner le signal de l'exécution. Tout le peuple assemblé criait « Grâce, grâce pour Eulenspiegel !» Eulenspiegel, sur son échelle, disait « Pitié, gracieux empereur !» L'empereur éleva la main et dit: si ce vaurien me demande une chose que je ne puisse faire, il aura la vie sauve. Parle, Eulenspiegel, cria le peuple. Les femmes pleuraient et disaient: il ne pourra rien demander, le petit homme, car l'empereur peut tout. Et tous de dire: parle, Eulenspiegel. Sainte Majesté, dit Eulenspiegel, oh, je vous demanderai rien, pas d'argent, ni de terre, ni la vie, mais seulement une chose pour laquelle vous ne me ferez, si je l'ose dire, ni fouetter, ni rouer, avant que je m'en aille au pays des âmes. Je te le promets, dit l'empereur. Majesté, dit Eulenspiegel, je demande qu'avant que je sois pendu, vous veniez baiser la bouche par laquelle je ne parle pas flamand. » L'empereur, riant ainsi que tout le peuple, répondit: « Ah oui, je ne puis faire ce que tu demandes et tu ne seras point pendu, Eulenspiegel. » Mais il condamna les bourgmestres et échevins à porter pendant 6 mois des besicles derrière la tête, afin, dit-il, que si ceux de Donnerherde ne voient pas par devant, ils puissent au moins voir par derrière. Et par décret impérial, ces besicles se voient encore dans les armes de la ville. Et Eulenspiegel s'en fut modestement avec un petit sac d'argent que lui avaient donné les femmes. Eulenspiegel étant à Liège, au marché aux poissons, suivit un gros jouvenceau qui, tenant sous un bras un filet plein de toutes sortes de volailles, en emplissait une autre d'aigles fins, de truites, d'anguilles et de brochets. Eulenspiegel reconnut l'âme Goetzac. Mais que fais-tu ici, l'âme ? Dit-il. Tu sais, dit combien ceux de Flandre sont bienvenus en ce doux pays de Liège. Moi, j'y suis mes amours, et toi ?
Je cherche un maître à servir pour du pain, répondit Eulenspiegel.
C'est bien sèche nourriture, dit l'âme. Il vaudrait mieux que tu fisses passer le plat en bouche à un chapelet d'ortolan avec une griffe pour le credo.
Tu es riche ? Lui demanda Eulenspiegel.
L'âme Goetzac répondit.
J'ai perdu mon père, ma mère et ma jeune sœur qui me battaient si fort. J'héritais de leur avoir et je vis avec une servante borgne, grand docteur esprit cassé.
Veux-tu que je porte ton poisson et tes volailles ? Demanda Eulenspiegel.
Oui, dit l'âme. Et ils vaquèrent à deux par le marché.
Soudain, l'âme dit. Sais-tu pourquoi tu es fou ?
Non, répondit Eulenspiegel.
C'est parce que tu portes ton poisson et ta volaille à la main au lieu de les porter dans ton estomac.
Tu l'as dit, l'âme, répondit Eulenspiegel, mais depuis que j'ai plus de pain, les ortolans veulent plus me regarder.
T'en mangeras, Eulenspiegel, dit l'âme, et me serviras si ma cuisinière veut de toi.
Tandis qu'il cheminait, l'âme montra à Eulenspiegel une belle jante et mignonne fillette qui, vêtue de soie, trottait par le marché et regarda l'âme de ses yeux doux. Un vieil homme, son père, marchait derrière elle, chargé de deux filets, l'un de poisson, l'autre de gibier.
« Celle-là, dit l'âme la montrant, j'en ferai ma femme. »
Oui, dit Eulenspiegel, je la connais, c'est une flamande de Zotgum. Elle demeure rue Vinavedil et les voisins disent que sa mère balait la rue devant la maison à sa place et que son père repasse ses chemises.
Mais l'âme ne répondit point et dit tout joyeux, « Mais m'a regardé !»
Ils vinrent à deux au logis de l'âme près du pont des Arches et frappèrent à la porte. Une servante borgne vint leur ouvrir. Eulenspiegel vit qu'elle était vieille, longue, plate et farouche.
« La Sorgine, lui dit l'âme, veux-tu de celui-ci pour t'aider en ta besogne ?»«
Je le prendrai à l'épreuve, dit-elle.
« Prends-le donc, dit-il, et fais-lui essayer les douceurs de ta cuisine. »
La Sangine mit alors sur la table trois boudins noirs, une pinte de cervoise et une grosse miche de pain. Pendant que Eulenspiegel mangeait, l'âme grignotait aussi un boudin.
« Sais-tu, lui dit-il, où notre âme habite ?»«
Non, l'âme, dit Eulenspiegel.
C'est dans notre estomac, repartit l'âme. Pour le creuser sans cesse et toujours à notre corps, renouveler la force de vie. Et quels sont les meilleurs compagnons ? Ce sont tous bons et fins mangés, et vins de Meuse par-dessus.
Oui, dit Eulenspiegel, les boudins sont une agréable compagnie à l'âme solitaire.
Il en veut encore de lui en Sangine, dit l'âme.
Et la Sangine en donna de blanc cette fois à Eulenspiegel. Pendant qu'il baffrait, l'âme devenue songeur disait
quand je mourrai, mon ventre mourra avec moi. Et là-dessous, en purgatoire, on me laissera gelant, promenant ma bedaine flasque et vide.
Les noirs me semblaient meilleurs, dit Eulenspiegel.
Oh, t'en as mangé six, répondit la sanguinée, tu n'en auras plus.
Tu sais, dit l'âme, que tu seras bien traité ici et mangeras comme moi.
Je retiendrai cette parole, répondit Eulenspiegel. Eulenspiegel, voyant qu'il mangeait comme lui, était heureux. Les boudins avalés lui donnaient un si grand courage que ce jour-là, il fit reluire tous les chaudrons, poils et cocasses comme des soleils. Vivant bien en cette maison, il rentait volontiers cave et cuisine, laissant au chat le grenier. Un jour, la sangine eut deux poulets à rôtir et dit à Eulenspiegel de tourner la broche, tandis qu'elle irait chercher au marché des fines herbes pour l'assaisonnement. Les deux poulets étant rôtis, Eulenspiegel en mangea un. La sangine, en rentrant, dit « Mais il y avait deux poulets, je n'en vois plus qu'un. » « Ouvre ton autre œil et tu les verras tous deux, » répondit Eulenspiegel. Ah, elle alla toute fâchée raconter le fait à l'âme de Gottsack, qui descendit à la cuisine et dit à Eulenspiegel « Mais pourquoi te moques-tu de ma servante ? Il y avait deux poulets. »
En effet, l'âme, dit Eulenspiegel, mais quand j'entrai ici, tu me dis que je boirai et mangerai comme toi. Il y avait deux poulets, mais j'ai mangé l'un, tu mangeras l'autre. Ma joie est passée, la tienne est à venir. N'es-tu pas plus heureux que moi ?
Oui, dit l'âme souriant, mais fais bien ce que la sangine te commandera, et tu n'auras que demi-besogne.
« J'y veillerai, l'âme, répondit Eulenspiegel. »
Aussi, chaque fois que la sangine lui commandait de faire quelque chose, il n'en faisait que la moitié. Si elle lui disait d'aller puiser deux seaux d'eau, il n'en rapportait qu'un. Si elle lui disait d'aller remplir au tonneau un pot de cervoise, il en versait en chemin la moitié dans son gosier, et ainsi du reste. Enfin, la sangine, lasse de ses façons, dit à l'âme que si ce vaurien restait au logis, elle en sortirait tout de suite. L'âme descendit près d'Eulenspiegel et lui dit « Il faut partir, mon fils, nonobstant que tu aies pris bon visage en cette maison. Écoute chanter ce coq, il est 2 heures de l'après-midi, c'est un présage de pluie. Je voudrais bien ne pas te mettre dehors par le mauvais temps qu'il va faire, mais songe, mon fils, que la sangine, par ses fricassés, est la gardienne de ma vie. Je ne puis sans risquer une mort prochaine la laisser me quitter. Va donc, mon garçon, à la grâce de Dieu, et prends pour égayer ta route ces 3 florins et ce chapelet de cervelas. » Mais Eulenspiegel s'en fut penaud, regrettant l'âme et sa cuisine. Novembre vint à dame, et d'ailleurs, mais l'hiver fut tardif. Point de neige, point de pluie ni de froidure. Le soleil luisait du matin au soir sans pâlir. Les enfants se roulaient dans la poussière des rues et des chemins. À l'heure du repos, après le souper, les marchands, boutiquiers, orfèvres, charrons et manouvriers venaient sur le pas de leurs portes, regardaient le ciel toujours bleu, les arbres dont les feuilles ne tombaient pas, les cigognes se tenant sur le faîte des logis et les hirondelles qui n'étaient point parties. Les roses avaient fleuri 3 fois et pour la 4e étaient en bouton. Les nuits étaient tièdes, les rossignols n'avaient pas cessé de chanter. Ceux de dames dirent « Oh, l'hiver est mort, brûlons l'hiver !» Et ils fabriquèrent un gigantesque mannequin ayant un museau d'ours,
une longue barbe de copeaux, une épaisse chevelure de lin. Ils le vêtirent d'habits blancs et le brûlèrent en grande cérémonie. Claës brassait mélancolie. Il ne bénissait point le ciel toujours bleu ni les hirondelles qui ne voulaient point partir. Car plus personne à dame ne brûlait du charbon, sinon pour la cuisine. Et chacun en ayant assez n'en allait point acheter chez Claës, qui avait dépensé toute son épargne à payer sur l'approvisionnement. Donc, si se tenant sur le pas de la porte, le charbonnier sentait se rafraîchir le bout du nez à quelques souffles de vent et grelait, « Ah, disait-il, c'est peut-être mon pain qui me vient !» Mais le vent et grelait ne continuait point de souffler, et le ciel restait toujours bleu, et les feuilles ne voulaient point tomber. Et Claës refusa de vendre à moitié prix son approvisionnement d'hiver à l'avare Gripstruiver, le doyen des poissonniers. Et bientôt, le pain manqua dans la chaumine. Mais le roi Philippe n'avait pas faim et mangeait les pâtisseries auprès de sa femme Marie Lalède de la royale famille des Tudors. Il ne l'aimait point d'amour, mais espérait en fécondant cette chétive donner à la nation anglaise un monarque espagnol. Mal lui en prit de cette union, qui fut celle d'un pavé et d'un tison ardent. Ils s'unirent toutefois suffisamment pour faire noyer et brûler par centaines les pauvres réformés. Quand Philippe n'était point absent de Londres, ni sorti déguisé pour aller ébattre en quelque mauvais lieu, l'heure du coucher réunissait les deux époux. Alors la reine Marie, vêtue de belles toiles de Tournai et de dentelles d'Irlande, s'adossait au lit nuptial, tandis que Philippe se tenait devant elle, droit comme un poteau, et regardait s'il ne verrait point en sa femme quelque signe de maternité. Mais ne voyant rien, il se fâchait, ne disait mot et se regardait les ongles. Alors la goule stérile parlait tendrement, et de ses yeux, qu'elle voulait faire doux, priait d'amour le glacial Philippe. Larmes, cris, supplications, elle n'épargnait rien pour obtenir une tiède caresse de celui qui ne l'aimait point. Vainement, joignant les mains, elle se traînait à ses pieds. En vain, comme une femme folle, elle pleurait et riait à la fois pour l'attendrir. Le rire ni les larmes ne fondaient la pierre de ce cœur dur. En vain, comme un serpent amoureux, elle l'enlaçait de ses bras minces et serrait contre sa poitrine plate la cage étroite où vivait l'âme rabougrie du roi de sang. Oh, ne bougeait pas plus qu'une borne. Elle tâchait, la pauvre laide, de se faire gracieuse. Elle le nommait de tous les doux noms que les affolés d'amour donnent à l'amant de leur choix. Philippe regardait ses ongles. Parfois, il répondait « N'auras-tu pas d'enfant ?» À ce propos, la tête de Marie retombait sur sa poitrine. « De ma faute, disait-elle, si je suis inféconde. Aie pitié de moi, je vis comme une veuve. »« Mais pourquoi n'as-tu pas d'enfant ?» disait Philippe. Alors la reine tombait sur le tapis comme frappée de mort. Et il n'y avait en ses yeux que des larmes. Et elle eût pleuré du sang, si elle eût pu, la pauvre goule. Et ainsi Dieu vengeait sur leurs bourreaux les victimes dont ils avaient chonché le sol de l'Angleterre. Le bruit courait dans le public que l'empereur Charles allait ôter aux moines la libre héritance de ceux qui mouraient dans leur couvent, ce qui déplaisait grandement au pape. Eulenspiegel, étant alors sur les bords de la Meuse, pensa que l'empereur trouverait ainsi son profit partout, car il héritait quand la famille n'héritait point. Il s'assit sur les bords du fleuve et jeta sa ligne bien amorcée. Puis, grignotant un vieux morceau de pain bis, il regretta de n'avoir pas de vin de Romagne pour l'arroser, mais il pensa qu'on ne peut pas avoir toujours ses aises. Cependant, il jetait de son pain à l'eau, disant que celui qui mange sans partager son repas avec le prochain n'est pas digne de manger. Survint un goujon qui vint d'abord flairer une miette, la lécha de ses babouines et ouvrit sa gueule innocente, croyant sans doute que le pain y allait tomber de soi. Mais tandis qu'il regardait ainsi en l'air, il fut tout soudain avalé par un traître brochet qui s'était lancé sur lui comme une flèche. Le brochet en fit de même à une carpe qui prenait des mouches au vol, sans souci du danger. Ainsi bien repu, il se tint immobile entre deux eaux, dédaignant le fretin qui d'ailleurs s'éloignait de lui à toute nageoire. Tandis qu'il se prélassait ainsi, survint rapide, vorace, la gueule béante, un brochet à jeun, qui d'un bond s'élança sur lui. Un furieux combat s'engagea entre eux. Il fut donné là d'immortels coups de gueule. L'eau était rouge de leur sang. Le brochet, qui avait dîné, se défendait mal contre celui qui était à jeun. Toutefois, celui-ci s'étant éloigné, reprit son élan et se lança comme une balle sur son adversaire qui, l'attendant la gueule béante, lui avala la tête plus qu'à moitié, voulut s'en débarrasser mais ne le put à cause de ses dents recourbées et tous deux se débattaient tristement. Ainsi accrochés, ils ne virent point un fort hameçon qui, attaché à une cordelette de soie, monta du fond de l'eau, s'enfonça sous la nageoire du brochet qui avait dîné, le tira de l'eau avec son adversaire et les jeta tous deux sur le gazon sans égal. Eulenspiegel, en les égorgeant, dit « Brochet, mes mignons, seriez-vous le pape et l'empereur s'entremangeant l'un l'autre, et ne serais-je point le populaire ? Qui à l'heure de Dieu vous apocro tous deux en vos batailles ?